propulsé par vocation.
Je suis Jasmine Manet.
Je suis Carla Abirad.
Bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière.
Aujourd'hui, c'est Jasmine au micro et je reçois Anne Boring sur Vocation. Anne est économiste, chercheuse, assistante professeure à Rotterdam et dirige la chaire d'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Anne s'est spécialisée sur les questions des inégalités, hommes-femmes, oui, mais aussi des inégalités auxquelles on est confronté dans le monde académique et la vie professionnelle. J'ai découvert le travail d'Anne sur la recommandation de Claire, épisode que je vous invite à redécouvrir par ailleurs. Et tout de suite, j'ai voulu l'inviter sur le podcast. Parce que c'est en comprenant les inégalités dont on souffre quand on est jeune, parfois qu'on ne remarque même pas, que vous aurez les clés pour les déceler, les comprendre et les combattre. On n'a pas du tout encore toutes les réponses, mais comprendre et savoir décrypter notre comportement et celui de ceux autour de nous est déjà la première étape pour changer les choses. Vous l'avez compris, cet épisode n'est que le début d'une réflexion à mener en tant qu'individu, en tant que jeune professionnel et futur acteur, voire sculpteur de la société de demain. Dans cet épisode, on a parlé de comment on devient économiste et chercheuse, des inégalités et stéréotypes dans le monde académique et le marché du travail, des inégalités de genre et de discrimination positive, de comment réduire l'asymétrie d'information entre le candidat et l'entreprise, de comment prendre des décisions selon la microéconomie, de comment faire nos choix quand on a trop de choix, le propre du jeune diplômé, non ? Et surtout, de comment se rendre compte des inégalités et devenir acteur du changement. Comme d'habitude, RDV sur Instagram, @vocation.co, et dans notre newsletter pour aller plus loin. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute!
Et bonjour Anne, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur Vocation. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, de votre métier, de votre parcours, de vos recherches, petite question préliminaire, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant ?
Bonjour Jasmine, je suis économiste maintenant, je suis enseignante chercheuse et c'est une ambition qui m'est venue bien plus tard parce que je pense que quand on est petit, on ne pense pas forcément à ce genre de métier, on ne sait pas vraiment qu'ils existent. Peut-être que pour répondre un peu à votre question et ce qui nous permettrait aussi de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est quand j'ai commencé mes études supérieures, j'étais très intéressée par la com et c'était un petit peu ma première idée de tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de la com pour une entreprise multinationale, par exemple, ou internationale. Voilà, j'étais plutôt partie sur le secteur privé, mais ce n'était pas forcément très bien défini à ce moment-là.
Super, justement, je rebondis. Est-ce que vous pouvez me raconter rapidement votre parcours de ces premières intuitions professionnelles à votre métier aujourd'hui d'économiste et chercheuse ? Comment c'est arrivé justement ? Comment est-ce que vous êtes arrivée à ce métier-là sans le connaître ? Comment ça s'est passé ?
C'est un peu une succession de, à la fois de hasard et puis aussi d'aventures intellectuelles dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'au tout début, je n'étais pas forcément très investie dans mes études. J'étais un peu dans la caricature de la fac française avec l'anonymat où on est un peu laissé à soi-même. Et un petit peu perdue, sans forcément savoir ce que je voulais faire. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'ai eu des cours et des enseignants et des enseignantes qui m'ont particulièrement marquée et qui, au fur et à mesure, en fait, m'ont permis de connaître ce métier d'enseignante-chercheuse, déjà en observant les enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs qui donnaient les cours, les maîtres de conférences, mais par ailleurs aussi le fait de me mettre à écrire des mémoires. Et je me souviens très clairement de mon premier modèle économique que j'ai rédigé pour un cours que j'avais. Alors, à cette époque-là, j'étais en année aux États-Unis et j'avais fait un cours séminaire sur ce qu'on appelle le public choice. Dans ce cours séminaire, je devais écrire un papier de recherche. J'avais fait un modèle théorique, j'avais adoré l'exercice de réfléchir comme ça, de lire tout un tas de papiers, de construire un modèle pour essayer de comprendre logiquement ce qui pouvait se passer dans un domaine donné. Et puis, de fil en aiguille, alors après, je me souviens, j'ai voulu être journaliste économique aussi. Donc, j'ai fait un stage de journalisme économique. c'était intéressant, mais finalement, quand j'interviewais des experts et des expertes en tant que journaliste, j'avais plutôt envie, en fait, d'être à la place de la personne qui répondait aux questions qu'être la personne qui pose les questions. Et j'avais envie de pouvoir aller un peu plus au fond des sujets que ce que pouvait, ou en tout cas à l'époque, me semblait être le métier de journaliste. Donc voilà, de fil en aiguille, comme ça, j'ai fini par faire une thèse. J'ai beaucoup aimé enseigner, en plus de la recherche.
Ok, super intéressant. Ça s'est un peu fait au hasard des rencontres, d'expérimentation, un peu de ce quotidien de chercheur économiste. Et on nous pose souvent la question, comment est-ce qu'on en arrive à devenir chercheur? Comment est-ce qu'on décide ou on se met à écrire une thèse? Quelles sont les étapes pour faire ce métier-là?
Il y a le goût pour la recherche qui est extrêmement important, et le goût pour l'écriture et la présentation aussi de ces travaux de recherche, que ce soit aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc le fait de participer à des conférences, par exemple, fait partie intégrante du métier. Il y a évidemment le goût pour l'enseignement, parce que ça va ensemble. Je pense que c'est bien de se tester un petit peu avant. Alors, c'est vrai que quand même, le fait de, par exemple, si on est en master et qu'on a bien aimé réfléchir et rédiger un mémoire, je pense que c'est déjà une première étape qui est importante pour faire une thèse. Faire une thèse, ça nécessite aussi énormément d'autonomie et le fait de pouvoir travailler toute seule, de savoir s'entourer de personnes qui peuvent aussi enrichir vos idées, évidemment. Le fait de collaborer, maintenant, il y a de plus en plus d'articles, et notamment en sciences économiques, ça devient très rare d'avoir des articles qui sont écrits avec une seule personne. Généralement, c'est quand même du travail d'équipe qui est fait. Mais ça reste un exercice qui est assez solitaire. Et de ce que j'ai pu voir aussi par des camarades qui ont pu faire des thèses ou même parmi des étudiantes que j'ai pu avoir, je pense que là, il y a vraiment un élément important de est-ce qu'on aime cette autonomie et est-ce qu'on a envie de pouvoir présenter les résultats de ces travaux. Donc ça, je pense que c'est des éléments importants. Et puis, il y a d'autres aspects aussi à prendre en compte. Selon les domaines où on veut faire une thèse, les débouchés sur le marché du travail sont plus ou moins importantes. En sciences économiques, il y a de plus en plus de postes, même en dehors de l'académique, qui demandent d'avoir une thèse. Donc, je pense que si on fait une thèse en sciences économiques, on va généralement plutôt bien réussir sur le marché du travail ou ça va être peut-être moins difficile que dans d'autres domaines. Mais il y a d'autres domaines où c'est très, très compliqué d'obtenir des postes. Et ça peut être aussi un danger avec le fait de faire une thèse. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire des thèses. Et donc, la concurrence peut devenir très, très forte lorsqu'il s'agit d'obtenir un poste, notamment dans le milieu académique. Donc, il faut aussi s'y préparer. Et ça, le plus tôt on s'y prépare, le plus tôt on s'informe sur quels sont les débouchés, est-ce que le sujet que je choisis va me permettre d'obtenir un poste intéressant après. Ça, c'est vraiment des questions assez fondamentales qu'il faut se poser, je pense.
Comment est-ce que vous avez choisi votre sujet? Quel était-il et comment vous l'avez choisi? Et après, dans votre carrière, comment est-ce que votre domaine un peu de prédilection ou de recherche a évolué?
Alors, mon sujet de thèse portait sur l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la politique commerciale des États-Unis. Et j'avais fait un master à Dauphine qui était en économie internationale et développement. Donc, c'était un peu une continuité aussi de mes études. Et je m'intéressais aux questions de lobbying et aussi aux questions de politique commerciale. L'industrie pharmaceutique est une industrie extrêmement intéressante à étudier de ce point de vue-là. Donc, j'avais choisi ce sujet qui m'a beaucoup intéressée pendant que j'ai travaillé dessus. Mais de fil en aiguille, j'ai complètement changé mes sujets de recherche, notamment parce qu'en fin de thèse, j'ai commencé à travailler à Sciences Po. Et à Sciences Po, donc là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet d'égalité professionnelle. C'était un petit peu un hasard, je pense, au départ de travailler là-dessus. C'était lié à un poste que j'avais à l'époque, qui était responsable pédagogique et où je lisais les évaluations des enseignements et je trouvais qu'il y avait des différences dans la façon dont les étudiants semblaient évaluer les hommes et les femmes enseignantes. Et donc, du coup, j'ai voulu l'étudier de façon un peu plus approfondie en utilisant mes outils d'économiste. Et en fait, les résultats étaient assez clairs, même après les analyses économétriques, qu'en effet, il semblait qu'il y avait bien des biais dans la façon dont les étudiants et étudiantes évaluaient les enseignants hommes et femmes. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à complètement investir ce domaine de recherche qui aussi est passionnant. Et ça a ouvert, en fait, pas beaucoup de différentes thématiques. Alors là, maintenant, dans mes travaux de recherche, je m'intéresse toujours à ces questions de biais dans l'évaluation. Mais je m'intéresse aussi énormément aux sujets liés au choix d'études des hommes et des femmes, et pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences dans les domaines de spécialisation choisis par les étudiantes et les étudiants, et quelles sont les conséquences pour le marché du travail. Donc ça fait partie des sujets de recherche que je continue d'approfondir, mais plus largement après les conséquences sur le marché du travail, quelles sont les différences, pourquoi est-ce que on a observé une diminution des inégalités en gros jusqu'au début des années 2000, mais que depuis il y a une stagnation de la réduction de ces écarts. Donc par exemple, si on prend les écarts de salaire en France, on est toujours à 15-16% de rémunération en moins pour les femmes en moyenne que pour les hommes. Alors ça dépend évidemment comment est-ce qu'on mesure ces écarts salariaux, mais ils restent persistants en tout cas pour une mesure donnée. De même, plus en plus d'entreprises s'intéressent à la question de l'égalité professionnelle et cherchent à savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas pour réduire les inégalités. Et donc là, mes travaux de recherche portent aussi là-dessus. Donc, quels sont les types d'initiatives que l'on peut mettre en place au sein d'une organisation de manière à réduire les inégalités?
Super intéressant. Et pour préciser, parce qu'on va décortiquer un peu chacune de ces thématiques un peu plus en détail, mais pour bien reposer le contexte et le sujet, est-ce que vous pouvez me définir ces inégalités? En quoi elles consistent, comment est-ce qu'elles s'incarnent et apparaissent aujourd'hui pour qu'on sache bien de quoi on parle?
Alors, il y a plein de façons de mesurer les inégalités et une inégalité ne veut pas forcément dire qu'il y a discrimination. Donc ça, c'est un point important à évoquer. Néanmoins, on se dit que la question de l'égalité économique des hommes et des femmes est importante. J'ai évoqué la question des inégalités salariales. On peut aussi évoquer la question des inégalités de représentation des femmes dans les postes de direction. En France, on a mis en place la loi Copé-Zimmermann qui a permis de réduire les écarts en termes d'inégalité au sein des conseils d'administration pour les grandes entreprises. C'est vrai qu'il reste, si on regarde à d'autres échelons, ne serait-ce qu'au sein des comités exécutifs des entreprises, il reste des écarts qui sont extrêmement importants. On peut s'intéresser aussi aux inégalités qui font que les entreprises qui sont créées par des femmes ont tendance à être plutôt sous-financées par rapport aux entreprises créées par des hommes, etc., etc. Sur l'évaluation des compétences au sein des entreprises, comment est-ce qu'on évalue de la même façon une candidature homme ou une candidature femme ou une performance au travail? C'est des questions aussi qui se posent à l'embauche sur les stéréotypes de genre. Et puis, en termes d'inégalité, il y a aussi la question de à quel point est-ce que ce sont plutôt des hommes ou plutôt des femmes qui se retrouvent dans des situations de pauvreté ou de risque de pauvreté économique. Et là, il y a aussi des populations qui sont particulièrement vulnérables, et notamment des populations de mères célibataires, et de plus en plus, en fait, on est dans un système économique qui valorise l'enseignement supérieur de plus en plus, et le fait d'avoir fait des longues études. Et ce que l'on constate, c'est que pour les personnes qui ne font pas forcément des études supérieures, le marché du travail peut devenir très compliqué. Donc, il y a un peu une disparition des métiers intermédiaires, une augmentation des métiers qui sont très demandeurs en fait en compétences qu'on peut développer dans l'enseignement supérieur, et puis aussi une augmentation des métiers qui ne demandent pas beaucoup de qualifications. Mais là, on se pose la question des inégalités hommes-femmes, évidemment, mais aussi des inégalités entre les types de postes que l'on peut obtenir. Il y a beaucoup de façons de répondre à votre question.
Je pense qu'on touche du doigt quelque chose de très important, c'est que ça c'est pas forcément impact sur les femmes ou c'est pas aussi binaire que ce qu'on pourrait penser, qu'en fait les hommes ou les femmes peuvent être impactés de manière différente, et ça concerne pas du tout seulement le genre, mais aussi tout un tas d'autres facteurs, notamment le niveau d'études et le milieu d'où on vient, etc. Je pense que c'est important de reposer ce contexte-là. Et petite question, du coup je rebondis sur ce point. En fait, d'où viennent, si on rapidement, même si c'est des années et des années, des millénaires d'accumulation, mais d'où viennent ces inégalités et comment est-ce qu'on les intériorise? Comment ça s'est passé, en fait?
Alors, comment est-ce que les inégalités sont créées? C'est vrai que c'est des persistances historiques de ce que, pendant longtemps, les femmes n'avaient pas l'autonomie nécessaire pour pouvoir travailler et obtenir des postes similaires aux hommes. Donc, c'est vrai qu'on a quand même fait énormément de progrès dans l'accès des femmes au marché du travail. Et dans un pays comme la France, qui est aussi plutôt progressiste sur ces questions, on voit quand même qu'on a quand même, on a réussi à réduire très largement les inégalités. Mais l'un des grands freins persistants, en fait, il y en a plusieurs. L'un des grands freins persistants, c'est la persistance des stéréotypes de genre et les normes sociales. Donc, à quel point est-ce que, en tant que société, on considère que le rôle de l'homme dans le couple, notamment, c'est plutôt quand même d'être la personne qui va assurer la plupart ou la plus grande partie du revenu familial, et la partie est liée à la parentalité qui reste très associée toujours à au fait que ça, ce serait plutôt le rôle des femmes. Par ailleurs, il y a dans les postes de direction, dans les postes de pouvoir économique, il y a quand même toujours ce stéréotype de genre qui est de ce qu'on se dit que, il y a un peu davantage un présupposé de compétence lorsque c'est un poste qui est majoritairement représenté par des hommes. C'est ça qui est assez intéressant avec des politiques de quotas. Alors, il y a plein de choses qu'on peut critiquer par rapport aux politiques de quotas. Mais par exemple, si on regarde en politique, le fait de voir davantage de femmes en politique fait qu'on s'y est habitué et maintenant on remet moins en cause la compétence d'une femme lorsqu'elle est dans un poste à responsabilité dans le milieu politique. Et c'est un peu la même idée par rapport aux politiques de quotas qui viseraient à augmenter la diversité dans les entreprises, qui est qu'à partir du moment où on voit plein de femmes dans des postes à responsabilité, bah quelque part, ça nous paraît plus aussi étrange et on part moins du supposé que faudrait qu'elle fasse d'autant plus d'efforts pour prouver qu'elle est compétente. Donc, ces perceptions de compétences sont très fortement liées au pourcentage d'hommes et de femmes, tout simplement, qu'on peut avoir dans un milieu. Là, je parle dans ces catégories-là, mais évidemment, il y a certains métiers, notamment les métiers du care, donc des soins à la personne ou individuels, qui sont des métiers qui sont plutôt à stéréotype féminin. Et là, on voit les mêmes mécanismes qui se déroulent envers les hommes, c'est-à-dire que c'est plus difficile pour un homme de se montrer compétent dans ces domaines-là, mais c'est aussi très largement dû au fait qu'on a moins l'habitude de voir des hommes dans ce type de métier. Mais si on était davantage habitué à en voir, ça poserait, on se poserait moins la question de cette façon-là. Je pense que dans les générations nouvelles, il y a celles qui arrivent sur le marché du travail. Ce que j'ai plutôt tendance à voir parmi les étudiantes ou les étudiants, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont envie d'avoir une répartition assez égalitaire, que ce soit au niveau de leur carrière professionnelle, mais aussi au niveau des tâches domestiques et des tâches d'éducation aux enfants. Et donc, le fait que davantage d'hommes souhaitent s'investir dans l'éducation de leurs enfants et souhaitent s'investir dans le partage des tâches va faire que finalement, on pourra peut-être changer les stéréotypes liés au travail à la maison et aux tâches et à la répartition des tâches domestiques. Donc il y a certaines évolutions quand même qui vont dans un sens, voilà. Après, moi je considère que c'est dans le bon sens, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on observe.
J'ai l'impression que c'est aussi, donc c'est une question de représentation, de un peu de rôle modèle, si on utilise ce terme, de voir et de savoir que c'est possible, et du coup ça change aussi notre perception petit à petit des choses. C'est super intéressant, et je rebondis justement sur votre rapport du coup au monde étudiant. Donc vous avez créé la chaire pour l'entrepreneuriat féminin à Sciences Po notamment. Qu'est-ce que vous observez justement chez vos élèves sur l'entrepreneuriat, mais plus largement sur en tant qu'étudiant et non pas en tant que jeune professionnel, parce qu'on a parlé un peu plus des jeunes professionnels, mais en tant qu'étudiant?
Alors, c'est la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes. Et j'ai pas voulu l'appeler entrepreneuriat féminin parce que de temps en temps, lorsqu'on dit féminin, on a l'impression qu'il y aurait un type d'entrepreneuriat qui serait associé à des caractéristiques féminines et un autre qui serait associé à des caractéristiques masculines, alors qu'il y a de l'entrepreneuriat, il y a des femmes et des hommes qui en font. Et c'est vrai que c'est l'un des freins que nous, on a pu observer, c'est que c'est plus difficile pour les femmes de se lancer en moyenne, notamment parce qu'elles ont moins accès à des financements. Donc ça, il y a pas mal de travail à faire là-dessus, et c'est quelque chose qu'on a engagé à Sciences Po et qu'on a aussi engagé avec les partenaires de la chaire au sens large. Mais aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les inégalités ou les obstacles auxquels les femmes entrepreneurs font face sont des obstacles auxquels les femmes, de façon générale, font face dans le marché du travail. Donc, le fait de voir leurs compétences reconnues, notamment, le fait d'avoir accès à des financements ou d'avoir accès à des augmentations salariales, etc. Et donc, du coup, ce qu'on voulait faire avec cette chaire, c'était créer du contenu pédagogique, mais enfin vraiment basé sur des études de recherche qui permettent de mieux préparer l'ensemble de notre communauté étudiante vers le marché du travail. À la fois les femmes, mais aussi les hommes, parce que au final, ce sont tous ces jeunes diplômés qui, ensemble, vont faire leur carrière à un moment donné. Et donc, c'est extrêmement important que tout le monde soit sensibilisé à ces sujets d'égalité professionnelle. Et que voilà, l'idée, ce n'est pas de corriger les comportements des femmes, ce qu'on peut parfois entendre dans certains discours qui diraient que, par exemple, les femmes auraient soit des caractéristiques spécifiques ou bien sinon que les femmes, dans leur ensemble, seraient moins preneuses de risques, alors qu'il y a énormément de variétés au sein des hommes aussi et aussi au sein des femmes sur des traits de personnalité tels que le goût pour le risque, par exemple. Donc voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de creuser justement les questions liées à quelles sont les sources réelles des inégalités. Alors, j'ai parlé des stéréotypes de genre, mais il y en a d'autres aussi. Donc, il y a évidemment la répartition des tâches domestiques et donc le temps qui est à disposition de chacune et de chacun pour développer une carrière professionnelle. C'est lié aussi à l'organisation du travail par les entreprises. Est-ce qu'une entreprise continue à valoriser le présentéisme ou bien le travail à des horaires qui sont moins compatibles avec une vie de famille? Là aussi, il y a un rôle important pour les hommes à jouer, c'est-à-dire que je pense que pour les jeunes diplômés hommes, le fait de dire à des entreprises « mais en fait, moi, c'est pas ce genre de vie-là que je veux, moi aussi, je veux un équilibre vie perso, vie pro », c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et justement, travailler ces sujets d'inégalité femmes-hommes, ça peut aussi être bénéfique aux hommes par certains aspects, et notamment par cet aspect d'équilibre de vie. Ça peut être aussi négatif pour certains hommes qui ne se verraient pas forcément attribuer des promotions qu'ils auraient pu avoir par ailleurs. Donc, ça augmente aussi un peu... Enfin, ça peut augmenter la concurrence sur le marché du travail, notamment Enfin, plus on monte dans les échelons. Mais là aussi, la question des rôles modèles est extrêmement importante. C'est-à-dire que si les femmes se disent que... Enfin, si une jeune femme rentre sur le marché du travail, se dit maintenant, aujourd'hui, en fait, dans quelques années, je me projette assez bien dans un poste de direction. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Je vois qu'il y a eu des femmes qui ont réussi à le faire dans mon entreprise. Peut-être que je peux aller les voir, leur poser des questions. Peut-être que je me sentirai plus à l'aise à aller voir elles et à leur poser des questions. Enfin, voilà, c'est... Il y a pas mal de solutions qu'on peut apporter et qui viennent à la fois des hommes et des femmes et puis aussi des organisations. Donc, comment est-ce que les organisations prennent en compte les revendications des jeunes diplômés? C'est quelque chose qui peut intéresser les auditrices et auditeurs de votre podcast.
Tout à fait. Et dernière question sur l'inégalité plutôt homme-femme, et après on pourra entrer plus dans les détails des inégalités et stéréotypes qui touchent au marché du travail plus globalement. Ma dernière question sur ce point-là, ce serait, parce que vous l'avez évoqué, de discrimination dite positive, d'un point de vue d'expert, quel est le bilan de ces politiques-là, ou en tout cas là où ça en est aujourd'hui? En tant que femme, on n'a pas envie d'être d'être privilégiée parce que pour notre genre ou sexe, mais en même temps, ça nous permet de faire changer les choses. Enfin, je pense que c'est un sujet qui qui amène à beaucoup de débats dans nos générations, parce que, enfin, de femmes et d'hommes, justement. Quel est votre vision des choses d'un point de vue plus de l'expert, pour aussi nous aider à avoir les bonnes clés pour animer ces débats, justement?
J'ai tendance à être plutôt favorable aux politiques de quotas, parce que elles permettent en fait deux effets. Le premier, c'est de faire en sorte que les entreprises s'intéressent davantage à la diversité et donc à mettre en place des politiques qui permettent aux femmes justement d'évoluer, mais aussi plus largement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin même si là les quotas sont c'est les quotas sur le pourcentage d'hommes ou de femmes, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à cette question, on s'intéresse plus à la question de la diversité au sens large, et comment est-ce qu'on fait pour que, en tant qu'organisation, on réduise les biais dans la façon dont on évolue les salariés, les augmentations de carrière, etc. Enfin, les évolutions de carrière, les augmentations salariales. Donc, il y a des effets positifs au sens large, et aussi sur cet effet de rôle modèle que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est que c'est lorsque l'on voit une personne à qui on s'identifie dans un poste à responsabilité, on se projette plus facilement. Il y a pas mal d'études qui ont tendance à montrer que cet effet de rôle modèle en fait marche plutôt bien. Il y a évidemment des effets négatifs des quotas. Alors, il y a toujours cette question de à quel point est-ce que les femmes elles-mêmes souhaitent avoir des politiques de quotas, parce qu'elles ont peur que leurs compétences ne soient pas reconnues lorsqu'elles obtiennent un poste de direction. Mais très honnêtement, ce n'est pas parce qu'il y a un quota que leurs compétences vont être moins reconnues que s'il n'y avait pas eu de quota. Simplement, je pense que le quota leur permet d'avoir accès à un poste où, de toute façon, elles étaient méritantes, mais que elles n'avaient pas eu, notamment en raison des biais dans l'évaluation de leurs compétences jusque-là. Cette inquiétude, après, je ne pense pas forcément qu'elle soit toujours justifiée. Je pense que c'est un argument qu'on avance, qui peut être avancé, et je pense pas qu'il soit vraiment très solidement justifié, on va dire ça comme ça. Après, sur les politiques de quotas, évidemment, ça pose quand même des questions de catégorisation des individus, du fait de est-ce que moi-même j'ai envie d'être reconnue dans une certaine catégorie. Quelque part, on aura réussi à éliminer l'ensemble des biais liés aux stéréotypes de quelle que soit la caractéristique, une fois qu'on verra vraiment les compétences individuelles, sans pour autant prendre les signaux d'une personne comme étant représentatifs de la compétence. Donc, le fait de mettre des individus dans des groupes pose problème aussi de ce point de vue-là. Donc, il y a des deux côtés, il y a des éléments qui sont un petit peu, qui sont à prendre en compte.
Mmh, tout à fait. C'est sûr qu'il y a toujours des arguments dans les deux sens, et il faut aussi savoir se défaire de peut-être d'idées typiquement de se dire on va être choisi parce que c'est le quota et non pas pour nos compétences, et quand même faire un travail de se rendre compte de pourquoi, du comment, qui est super important.
En fait, le contrefactuel, c'est que vous auriez été compétente, mais vous n'auriez pas été prise pour le poste. C'est un peu ça le problème.
Oui.
Donc, c'est pas de se dire que sans le quota, j'aurais quand même eu le poste parce que je suis compétente. C'est-à-dire qu'en fait, sans le quota, votre compétence risque de ne pas avoir été reconnue, ou ne serait peut-être pas forcément reconnue. Et on n'a pas trouvé en fait la solution pour comment est-ce qu'on fait en sorte que les compétences soient reconnues de toutes les façons entre chaque individu, quels que soient les groupes auxquels on peut les identifier ou auxquels ils s'identifient eux-mêmes. C'est là toute la difficulté.
Un vaste sujet, on pourrait en parler des heures. j'en profite pour enchaîner sur plutôt les inégalités et stéréotypes qui concernent le marché du travail et le monde académique, qui est aussi un autre champ de votre recherche. Je vous propose de décortiquer peut-être d'abord le choix d'études, les inégalités à l'école, ensuite l'entrée dans le monde professionnel, et pour finir avec vraiment une fois en poste, comment c'est ça les outils dont vous parliez tout à l'heure pour progresser, pour avoir en tête en tant que jeune professionnel comment faire aussi attention à ces thématiques-là. Donc, pour commencer sur les choix d'études et les inégalités en école, déjà quels sont-ils, enfin quelles sont les inégalités à ce moment de vie? Et d'où viennent-ils ou d'où viennent-elles à ce moment-là?
Alors, les mécanismes de stéréotypes se reproduisent un peu à quel que soit l'âge, mais on les voit apparaître au final assez tôt. Mais moi-même, mes domaines d'études, c'est plutôt dans l'enseignement supérieur. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les écoles de commerce, il y a des différences dans les choix de spécialisation des hommes et des femmes qui peuvent être assez marqués. Alors, ces stéréotypes sont liés à la fois à des effets de concurrence. Ça peut être aussi lié au fait de ce que les femmes peuvent se dire qu'elles ont envie d'évoluer dans un certain milieu plutôt que dans un autre. Et pareil pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a certains domaines qui peuvent refléter certaines valeurs, qui peuvent convenir à davantage d'hommes ou à davantage de femmes. Donc là, il y a pas mal de travaux de recherche qui ont encore besoin d'être menés, je pense, pour complètement comprendre quelles sont les dynamiques qui sont en place. Mais assez tôt, il y a la question aussi de qui continue dans des disciplines qui sont plus ou moins mathématisées, plus ou moins scientifiques. Et c'est quelque chose que l'on voit assez clairement, qui est que les femmes ont tendance à moins souvent choisir les spécialisations ou les métiers qui sont fortement mathématisés ou qui sont fortement liés aux sciences, mais qui sont aussi fortement, qui ont un fort pourcentage d'hommes. Ce que montrent aussi les études, c'est que ce n'est pas parce qu'elles sont moins fortes en maths que les hommes, mais c'est en partie parce qu'elles sont, d'une part, meilleures dans les humanités que les hommes. Donc, il y a un avantage comparatif, en fait, des femmes dans des matières qui vont être plutôt plus littéraires. Et puis aussi, il y a des effets des anticipations de ce qu'elles ne se sentent pas forcément tout à fait intégrées dans des milieux qui peuvent encore être assez... qui peuvent être vus comme étant moins égalitaires. Alors, il y a eu un article dans Le Monde, par exemple, assez récemment sur le secteur de la finance et ce qui peut se passer dans les soirées ou dans les stages, etc. Donc, je pense que ça peut être aussi des éléments qui peuvent décourager les femmes de rentrer dans certains milieux par rapport à d'autres. Parce que c'est vrai, quand on choisit sa carrière, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant 40 ans? Où est-ce que j'ai envie d'être? Avec qui est-ce que j'ai envie de passer mes journées? Voilà, c'est des questions qui se pose pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes. La connaissance que l'on a de comment va réellement être un milieu professionnel, quelles vont être les perspectives d'évolution professionnelle dans un certain milieu, sont assez largement toujours inconnues au moment où on est en études supérieures. Et donc là, ce qui est extrêmement important, c'est de se renseigner le plus possible. Et puis pour les entreprises qui recrutent, de se rendre plus attractives aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui ont envie de joindre leur rang et de faire des études qui aillent dans leur sens.
Oui, tout à fait. Et quand vous dites se renseigner le plus possible, qu'est-ce que je dois rechercher? Là, je suis en recherche de mon premier job, par exemple, ou de premier stage. Enfin, se renseigner, d'accord, mais quels sont les éléments que je recherche ou que je dois rechercher pour justement avoir un peu toutes les cartes en main pour faire mon choix et savoir un peu à quoi m'attendre, justement, comme cette question de projection dont on parlait tout à l'heure.
Une bonne première source d'information, ce sont les enquêtes jeunes diplômés, notamment alors pour des diplômés d'HEC, par exemple, le rapport annuel de la conférence des grandes écoles, qui permet de donner un peu une idée, un panorama de ce qu'on peut faire avec un type de diplôme en particulier. Alors ça, c'est peut-être plus pour des jeunes diplômés autant que pour des hommes et des femmes qui sont en début de leur parcours dans le supérieur, parce que ça permet aussi d'avoir une idée du type de salaire que l'on peut avoir avec une spécialisation dans un domaine par rapport à un autre. Après, je pense que c'est... Alors, évidemment, le fait de faire des stages, c'est extrêmement important parce que ça permet de développer son goût et puis de se dire, bah, finalement, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins bien. Et le fait de multiplier les stages et notamment lorsque l'on est en école, je pense que c'est quelque chose, c'est un élément qui est assez important. Je pense qu'il faut aussi ne pas rester bloqué lorsqu'on se retrouve dans un environnement qu'on n'aime pas forcément, donc il ne faut pas s'interdire de bouger. Donc ça, c'est des sources d'informations un peu plus globales. Mais pour répondre aussi à votre question, ce qui est extrêmement important, c'est de parler avec des personnes qui travaillent dans un certain milieu. Il y a pas mal, alors là en ce moment c'est compliqué parce que tout se passe en ligne, mais il y a quand même des événements en ligne qui permettent de créer des réseaux et de en fait tout simplement de poser des questions sur vous vous dites que j'aimerais bien rentrer dans ce milieu-là, à quel point est-ce que je me projette dans ce type d'entreprise par exemple ou dans ce type de poste. Donc faut trouver des personnes qui sont déjà dans ces postes-là et discuter avec elles. Ça c'est assez fondamental et c'est quelque chose qui est assez intéressant sur les types de politiques que les entreprises peuvent mettre en place pour favoriser l'égalité professionnelle. Il y a notamment les programmes de mentorat et les programmes de networking, de réseau. Parce que l'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est qu'en fait, on obtient de l'information sur un milieu professionnel, comment ce milieu professionnel fonctionne, quelles sont les règles du jeu dans ce milieu professionnel. Et obtenir ces informations-là, en fait, on les obtient réellement qu'en discutant avec les gens. Et ça, c'est extrêmement important. Et plus tôt on pose des questions, le plus tôt on s'ouvre justement à ça, le plus tôt on a les informations pertinentes. Puis aussi, comme ça, vous rencontrez des gens qui peuvent connaître quelqu'un, qui peuvent aussi vous présenter, qui peuvent soutenir vos candidatures. Enfin, voilà, mon conseil principal serait vraiment d'essayer de rencontrer le plus possible des personnes qui sont impliquées dans des environnements où vous vous dites, tiens, pourquoi pas. Et après, vous allez avoir aussi des informations sur le type de carrière que l'on peut obtenir si on rentre dans un grand groupe par rapport à un plus petit groupe, si je veux lancer mon entreprise. Donc là aussi, travailler avec quelqu'un qui peut vous aider à développer des stratégies de carrière, ça peut être intéressant. Vous allez commencer dans une certaine voie. Il y a de très grandes chances que vous allez changer de voie à un moment donné. Mais le fait de s'interroger, de quand même construire sa propre stratégie de carrière, ça permet d'avoir en fait une vision à moyen long terme qui permet d'avancer et au final quelle que soit la direction que vous allez réellement prendre plus tard. Mais faire cet exercice là au début, ça permet aussi un peu de se débloquer de cette situation dans laquelle beaucoup de jeunes diplômés ou d'étudiantes et d'étudiants se retrouvent, qui est de je ne sais pas franchement encore ce que j'ai envie de faire. Et le mieux, c'est en fait de se mettre à de tester le plus possible.
Ouais, c'est de projeter. Nous, on se rend beaucoup compte avec vocation qu'il y a un peu une mystification. Enfin, il y a le mythe du premier CDI où c'est un peu une date butoir et puis c'est un peu l'aboutissement de nos études où c'est vraiment assez événementialisé, assez vraiment mis en avant sans forcément se projeter. Justement, bon, bah, une fois que j'y suis, qu'est-ce que je fais? On se retrouve avec le même questionnement. Je pense que c'est un point super important de se dire comment va évoluer ce parcours-là, comment est-ce que je vais changer, dans quoi est-ce que je me projette, quel était mon objectif à moyen terme. Et je pense qu'en effet, c'est vraiment important et on nous le dit souvent. Et je rebondis sur cette question un peu d'asymétrie d'information, si on peut l'appeler comme ça, entre candidat et entreprise. Donc, on a parlé plutôt de la phase amont de la recherche où c'est j'identifie ce que j'ai envie de faire plutôt. Une fois que je suis vraiment dans la démarche d'une candidature, où du coup la relation avec l'entreprise peut être d'autant plus transactionnelle due à cette recherche d'emploi, comment réduire cette asymétrie d'information à ce moment-là précis de candidature et ensuite d'entretien et même potentiellement de négociation de poste?
La personne qui a le plus d'informations est la personne qui a le plus de pouvoir. Donc ça, c'est toute la difficulté lorsqu'on est jeune diplômé sur le marché du travail, c'est qu'on a en réalité très peu d'informations sur comment va être réellement un poste, combien est-ce que je peux demander pour un premier poste. Il y a aussi l'incertitude par rapport, donc là, c'est pas forcément un problème d'information, mais un problème d'incertitude qui est si j'ai une offre qui m'intéresse, pourquoi pas, mais c'est pas non plus mon
premier choix.
Ouais, voilà. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que je continue à chercher et que je refuse ou pas? Voilà, c'est toujours très compliqué et on ne sait pas. C'est compliqué aussi même de donner des conseils parce que, en effet, peut-être que vous allez remettre 6 mois derrière pour trouver quelque chose. Mais il faut quand même se poser réellement ces questions-là. C'est-à-dire que est-ce que je suis prête ou prêt à me lancer dans quelque chose qui me plaît moyennement? Je pense que vraiment, on a tendance à plutôt bien réussir ce qu'on fait lorsqu'on se plaît dans un certain environnement. Le conseil, c'est d'essayer de discuter avec des gens qui ont travaillé peut-être dans cette entreprise ou dans des postes similaires, mais dans d'autres entreprises, essayer de se renseigner évidemment sur les salaires que l'on peut demander. Est-ce qu'il y a une grille de rémunération? Est-ce que vous pouvez avoir connaissance un peu de ces éléments? Voilà, oser poser des questions, c'est extrêmement important. Et après, les entreprises, je pense qu'évidemment, elles ont plus d'informations sur ce qui se passe chez elles. D'un autre côté, elles ont aussi envie que ça se passe bien avec les personnes qu'elles recrutent. Donc, c'est pas non plus complètement à leur avantage de vous cacher des informations. Mais par contre, faut que vous posiez les questions.
Il faut être chercheur d'informations, sinon elles vont pas forcément dérouler le tapis rouge de l'information. C'est clair.
Exactement. Donc, ce qui peut être utile, c'est lorsque vous préparez vos entretiens, vous préparez une liste de questions, de points qui vous semblent importants et pour lesquels vous souhaitez obtenir des réponses. Je pense que beaucoup de candidates et de candidats n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur que peut-être ça va jouer contre eux à l'entretien. Alors, peut-être qu'en effet, ça va jouer contre eux, mais d'un autre côté, il faut aussi se poser la question de si ça joue contre eux, à quel point est-ce qu'ils auraient vraiment eu envie de travailler pour cette entreprise qui voulait pas leur fournir les informations pertinentes. Enfin, voilà. Donc, c'est quand on cherche le premier poste, on est un peu en position de faiblesse en tant que jeune diplômé parce qu'on a besoin d'un premier salaire et qu'on a vraiment envie de se lancer. Et en même temps, pour que ça se passe bien, en fait, faut que ça matche des deux côtés, quoi. C'est pas que du côté de, faut que absolument que mon profil plaise à l'entreprise. Faut aussi que l'entreprise vous plaise pour que vous y sentiez bien. Et puis après, il y a toujours le truc de si vous vous êtes embauché et que ça se passe pas si bien que ça, vous pouvez changer. Enfin, ça, faut vraiment pas, je pense, se persister à un moment donné. Si on voit vraiment qu'on est bloqué dans un poste ou que le poste correspond pas vraiment à ce que j'ai envie d'apprendre, par exemple, des compétences que je veux développer, dans ce cas-là, faut pas hésiter à chercher autre chose.
Mmh, tout à fait. Je pense qu'une autre question que j'ai, c'est justement sur cette, le conseil, je pense, qui revient le plus sur notre podcast et que vous remettez en avant, c'est justement aller chercher l'information, se renseigner, parler un maximum de personnes dans l'entreprise, dans le secteur, etc. Mais là, je parle à vous en tant qu'économiste, et à force d'avoir un peu se rendre compte de l'infini des possibles, plus on a de choix, plus c'est difficile de faire un choix. Alors, comment trancher?
Alors, c'est vrai que les travaux de recherche le montrent très clairement que plus on a de choix, plus c'est compliqué de faire un choix. Et donc, plus on a de choix, plus on a tendance à plus savoir quoi choisir, ou bien sinon à repousser le moment où on va vraiment prendre une décision, en espérant qu'un peu les choses se clarifient entre-temps. Je pense qu'il faut juste avoir conscience du fait que ces mécanismes-là arrivent et que le fait d'avoir l'embarras du choix, c'est aussi un luxe. Donc voilà, je pense que dans ces cas-là, si vraiment on a le choix, il faut se poser la question de ce qui est de ses propres valeurs et de ce qu'on a envie de faire, de qu'est-ce qui compte pour soi. Est-ce que c'est le fait d'avoir des belles perspectives de carrière? Est-ce que c'est le fait d'avoir un engagement qui me tient à cœur? Est-ce que c'est le fait d'avoir une rémunération que je considère comme étant un minimum acceptable par rapport aux études que j'ai faites jusqu'à présent? Donc c'est à chacun en fait de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Et faire des listes et vraiment poser les choses par écrit, ça aide à faire des choix. Mais choisir, c'est difficile.
C'est ça, l'éternel dilemme au quotidien.
En fait, l'une des grosses difficultés du choix, c'est la peur du regret. Et je pense qu'à partir du moment où on a décidé ce qu'on voulait faire, il ne faut pas se poser la question du regret. C'est-à-dire que du coup, on assume. Voilà, j'ai fait ce choix-là, donc je continue dans ce choix-là. Après, je peux évidemment changer plus tard.
C'est de poser la question permet de savoir pourquoi on a choisi cette voie-là ou ce poste, etc. Et donc, ça permet aussi d'assumer et ensuite de passer à autre chose plutôt que d'être toujours dans une sorte d'entre-deux un peu bâtard, si je peux le dire comme ça. Et donc, pour revenir à cette question du choix et de la prise de décision, est-ce que vous pouvez me rappeler la théorie justement derrière ces prises de décision? Comment l'être humain fonctionne en fait au moment de la prise de décision? Donc là, plus généralement, et je pense que ça permet aussi de comprendre face à un choix professionnel, quels sont les mécanismes à l'œuvre.
Alors, il y a beaucoup de théories qui permettent d'expliquer les choix individuels. Moi, en tant qu'économiste, je m'intéresse, de microéconomiste, même là, il y a plein de façons de répondre à cette question. Alors, du coup, chez les économistes, la façon traditionnelle, ça va être, l'objectif, c'est maximiser son utilité. Et donc, du coup, on a sa fonction objective qui décrit nos préférences. Et puis après, on est sujet à des contraintes. Et ces contraintes, ça peut être les normes de genre, par exemple, mais aussi, évidemment, les contraintes financières. Est-ce que je peux me permettre d'attendre encore 2 semaines, 6 mois pour obtenir un poste. Est-ce que, enfin voilà, il y a tout un tas de contraintes qui rentrent en compte. Est-ce que des personnes dépendent de moi, etc. Moi, un modèle théorique qui m'intéresse beaucoup, c'est le modèle des capacités qui est développé par Amartya Sen et Martha Nussbaum, par exemple. Et là, dans ce qui nous intéresserait, c'est plutôt un peu quels sont les choix sont les conséquences de à la fois des capacités internes, des capacités internes que l'on a et des capacités externes. Et dans les capacités internes, qui est vraiment l'un des sujets de recherche que je développe, c'est quelles sont les compétences que j'ai pu développer et acquérir. Et ces compétences, ça peut être évidemment des compétences professionnelles, mais aussi des compétences de résilience, par exemple, ou de savoir rebondir. Enfin voilà, des éléments qui sont un peu plus psychologiques, mais qu'on peut tout à fait développer aussi, qui nous permettent à un moment donné, d'être en capacité de faire un choix et d'être vraiment libre en fait de ce qu'on a envie de faire. Et savoir quelles sont ces capacités-là que l'on peut développer pour soi-même, je pense que c'est aussi une façon assez utile et intéressante à travailler. Mais le grand danger, c'est de ne pas faire ce travail-là, c'est-à-dire que de ne pas réfléchir à « mais en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et là aussi, je pense qu'avoir se donner des temps de réflexion, et notamment via l'écriture, où on se pose pendant une demi-heure, une heure, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, où vraiment on développe un peu ce qu'on a envie de faire, ça aide vraiment justement à lutter contre les inerties qui empêchent de prendre des décisions.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un point super important. J'ai envie de rebondir sur ce que vous me disiez tout à l'heure, sur un peu la courbe de croissance qui s'est apaissée un peu depuis les années 2000, de progression peut-être de l'égalité sur tout un tas de sujets, et de l'assimiler à, en tant que donc jeune diplômée, je suis en premier poste. On a du mal à se projeter dans notre vie à cet âge-là, mais si je commence à réfléchir à long terme, donc on parlait stratégie de carrière entre autres, mais qu'est-ce qu'il faut anticiper d'autres, hommes ou femmes, sur la progression de son parcours professionnel, est-ce que les inégalités se creusent, si oui, pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'il faut avoir un peu en tête de ce qui peut nous arriver. Alors on a beaucoup parlé du monde académique et du premier choix, mais pour se projeter en tant que jeune professionnel, il faut aussi penser un peu plus long terme. À quoi est-ce qu'il faut se préparer et anticiper quand on commence sa carrière ?
Alors, déjà, quand on parle en termes de recherche, on parle en termes de moyenne, mais il y a évidemment plein de femmes qui s'en sortent très bien sur le marché du travail. Je pense que ça, c'est extrêmement important de le garder en tête, parce que parfois, lorsqu'on parle de ces sujets d'inégalité femmes-hommes, on a tendance à se concentrer sur toutes les fois où ça se passe moins bien pour les femmes que pour les hommes, mais même si en moyenne, il y a des inégalités, il n'empêche qu'il y a plein de femmes pour qui ça se passe très bien. Donc, ce n'est pas parce que vous vous lancez en tant que jeune femme sur le marché du travail que nécessairement vous allez vous retrouver face à des obstacles insurmontables ou que nécessairement ça va mal se passer. C'est pas le cas, ça peut aussi très très bien se passer. Par contre, quand ça commence à mal se passer, il faut quand même se poser la question de est-ce que j'ai envie de persister ou est-ce que je bouge ? Et ça, c'est assez vrai pour les hommes comme pour les femmes. Ça peut être lié, ne serait-ce que par exemple, si votre entreprise est plutôt dans une phase vraiment très difficile, qu'elle n'est pas en croissance, ça peut valoir la peine de bouger en fait, parce que et d'aller vers une entreprise où ça se passe mieux, où vous pourrez davantage justement profiter et vous épanouir dans cet environnement-là. Donc enfin voilà. Donc il y a quand même à avoir cette conscience de comment ça se passe dans mon environnement. Est-ce que je continue à me développer dans ce contexte-là, ou sinon en fait vaut mieux essayer de trouver autre chose. Et pour les femmes, il y a la question de la maternité, et sur les données statistiques, c'est très clair que c'est vraiment là où on voit un gros décrochage ou un gros creusement des inégalités. Et en grande partie, c'est lié à l'inégale répartition des tâches domestiques et au fait que dans certains métiers, il est toujours exigé de faire des horaires de travail qui ne sont pas toujours compatibles avec une charge familiale, surtout lorsqu'elle repose davantage sur les femmes dans ces couples. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut vraiment discuter en amont avec son conjoint et d'essayer d'organiser au mieux possible de manière à ce que ses carrières ne soient pas, que sa propre carrière ne soit pas si négativement impactée. Et puis évidemment aux organisations de réfléchir vraiment à comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que qu'elle pénalise moins les hommes et les femmes. Et là, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer sur, par exemple, le fait de, enfin, l'allongement du congé paternité. C'est un élément qui est intéressant parce que ça permet, du coup, pour une entreprise, si elle doit recruter un homme ou une femme, se dire, bah, finalement, que je recrute un homme ou une femme, les deux ont des chances de partir à un moment donné pour s'occuper de leurs enfants, de leurs jeunes enfants. Et donc, finalement, ça enlève un peu l'avantage du fait de recruter un homme par rapport à une femme. Mais au-delà de ces données législatives, de ces contraintes qui peuvent venir du législatif, il y a aussi pour les entreprises, vous voulez attirer les meilleurs talents. Et les meilleurs talents, ils ont peut-être aussi envie d'avoir une vie équilibrée. Et je pense que ça va être un peu l'un des grands chantiers des années à venir. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce temps de travail soit peut-être un petit peu mieux organisé.
Oui, une autre question que j'ai, en tant que jeune, donc on est amené à plus de responsabilités, de leadership, parfois de management. Quels sont un peu les outils ou les conseils que vous avez à donner pour des jeunes managers qui découvrent cette responsabilité et qui ont envie d'être acteurs du changement?
Alors déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que tout le monde a des préjugés, tout le monde a des stéréotypes en tête, ce sont des mécanismes qui sont automatiques. Et donc à partir du moment où on sait que quoi qu'il en soit, il y a des grandes chances que son propre jugement sera biaisé, l'idée, c'est de trouver les mécanismes pour essayer de prendre des décisions qui sont les moins biaisées possibles. Alors, il y a de plus en plus d'études qui permettent justement d'aider dans son sens. Alors, par exemple, le fait d'avoir des critères objectifs et écrits et prédéfinis à l'avance sur les compétences qui vont être requises, par exemple, pour un recrutement, ou bien sur quels sont les critères que l'on voulait réellement voir être satisfaits pour donner une promotion à une personne par rapport à une autre. Il y a aussi le fait que, par exemple, les femmes peuvent moins souvent se proposer pour des promotions. Et donc, du coup, en tant qu'organisation, le fait de chercher des talents qui vont être plus divers et qui ont peut-être moins tendance à se mettre en avant, de manière à faire en sorte qu'on compare réellement pas que des personnes qui ont le même profil entre elles. Il y a tout un tas de mécanismes un peu qui vont dans ce sens-là. L'idée, c'est d'essayer de se rendre compte de ces biais. Enfin, l'idée globale, hein, c'est de se rendre compte de dans certaines situations, il est possible que mon jugement soit biaisé, et donc du coup de réfléchir en amont. Donc ça, c'est très important, avant que les premières impressions commencent à faire leurs effets sur les critères objectifs que l'on veut sur lesquels on veut appuyer sa décision.
Super intéressant, et je pense que c'est vraiment important, en fait, de se rendre compte que personne n'est parfait et qu'il faut simplement être attentif à ce qui guide nos choix et comment est-ce que on peut les rendre les plus objectifs possibles, comme vous avez dit. Et un autre point sur cette volonté d'être acteur du changement, comment qu'attendent de ses pairs, en fait, de ses collègues, de son entreprise? Donc, on parlait un peu de ce besoin de l'entreprise en termes de marque employée, en termes même de bien-être de ses salariés, de proposer des mesures plus en avance. Mais en tant que professionnel, comment est-ce que je peux interagir avec mes collègues et mon entreprise dans son tout pour faire bouger les choses et pour aussi être acteur de ce changement sans devoir forcément partir, même si, pour certaines raisons, le choix de partir est pertinent. Mais comment est-ce que je m'implique aussi pour changer les choses et pour, inspirer le changement?
Peut-être une mesure qui est importante ou le type d'initiative qui est important, c'est lorsque l'on est soi-même pas forcément la cible d'une remarque ou d'un commentaire qui peut être sexiste ou dégradant ou biaisé quel que soit un peu ce type de comportement ou de paroles que l'on peut entendre ou observer, c'est important de dire à la personne en fait que vous pensez que vous c'est pas juste ou que ça peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement de travail dans lequel évoluent des femmes par exemple si on parle de propos sexistes. Donc pour les en fait dénoncer mais pas forcément par rapport à soi-même mais en fait pas dire mais là en fait là ce qui vient d'être dit ça c'est pas ce qu'on a envie de valoriser en fait dans l'entreprise mais le faire d'une façon qui est pas non plus enfin voilà on n'est pas justement ce que vous disiez tout à l'heure personne n'est parfait et la question c'est pas de dire un tel est pas bien, un tel est bien, ou quoi qu'il soit, c'est juste en fait se rendre compte que si on a envie vraiment envie en tant qu'organisation que l'ensemble des compétences s'exprime et se sente à l'aise, bah, du coup ça implique aussi de ne pas se rendre pas se rendre complice, c'est un grand mot, mais de participer en fait soi-même à la création d'une ambiance de travail qui peut être plus inclusive. Et ça peut même passer par exemple un sujet qui est assez fréquemment évoqué dans cette littérature-là sur les biais auxquels les femmes se retrouvent confrontées dans les réunions, ça va être de ce qu'elles vont émettre une idée. Et cette idée-là va être reprise par un collègue masculin. Et après, l'idée est attribuée au collègue masculin, alors qu'en fait, l'idée venait à la base d'une femme. Bah, si on observe cette dynamique-là dans une réunion, on peut très bien dire, ah oui, c'est vrai que cette idée-là, qu'un tel vient de dire, bah, en fait, une telle l'avait dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'on puisse développer cette idée-là. Donc voilà, se rendre compte de comment son environnement aussi traite les femmes, si on parle d'égalité femmes-hommes, et mettre en avant les compétences des femmes au moment où ces compétences s'expriment, c'est extrêmement important. Et finalement, c'est très peu coûteux. Il faut juste vraiment être très attentif au dynamisme qui sont mis en place, en fait, les dynamiques, pardon, plutôt, qui sont mises en place au sein des organisations.
Super intéressant. C'est un peu ce rôle d'observateur et d'acteur, en fait, de l'observateur devenir acteur. Je pense que c'est super important d'avoir ça en tête et que c'est pas du tout... Enfin, je pense qu'on a tendance à vouloir passer pour le rabat-joie, etc. Enfin, c'est un peu peut-être cette question de confiance en soi aussi quand on est plus jeune. Mais comme vous venez de le montrer, il n'y a pas du tout besoin de montrer du doigt ou d'énoncer absolument. En fait, il y a plein d'actions et de paroles en fait, qui suffisent pour déjà distiller du changement petit à petit et changer cette ambiance-là. Super. Merci, Anne. Je pense qu'on a couvert déjà pas mal de sujets. Et sur chaque moment de la vie de l'étudiant au jeune professionnel ou même au professionnel un peu plus avisé, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou un conseil que vous souhaitez donner à notre audience pour naviguer en fait ses choix et son début de vie professionnelle?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sujets que l'on pourrait aborder. Alors, j'ai peut-être juste me concentrer sur un conseil. Mais ce conseil-là, c'est aussi de, lorsqu'on est une femme et qu'on se lance dans sa carrière professionnelle, de faire ce qu'on aime et puis de se dire quoi qu'il arrive, en fait, on peut y arriver. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement où on se sente bien. Donc ça, c'est voilà, mes conseils, c'est vraiment de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. Et ça vaut pour les femmes, mais ça vaut pour tout le monde.
Merci beaucoup, Anne. Je suis vraiment ravie de vous avoir accueillie sur le podcast et à très bientôt.
Merci beaucoup, Jessie.
Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram @vocation.co pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif.
À la semaine prochaine.